Radio Capi. Oh, Capi. Le journal, présenté par Jocelyne Moussaoupondé.
La présidence de la République rompt le silence sur l'affaire François Béa. Les enquêteurs de l'Agence nationale de renseignement ANR disposent des indices suffisamment sérieux contre la sécurité nationale, a déclaré hier soir sur le plateau de la RTNC le porte-parole du chef de l'État. Fine alerte, c'est l'outil de lutte contre les antivaleurs dans la mobilisation de recettes publiques lancée hier mardi par le ministre des Finances. Il s'agit d'une application téléchargeable sur ordinateur ou sur le téléphone et d'un numéro vert pour dénoncer toute tracasserie. L'administrateur du territoire de Moba dans le Tanganyika et notre invité Didier Mumbere a procédé récemment à l'incinération d'une vingtaine de filets à mailles prohibées dans le but de protéger l'écosystème et la biodiversité du lac Tanganyika. Bonjour à tous. Interpellation de François Béa, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. La présidence de la République rompt le silence dans une déclaration lue hier mardi sur le plateau de la télévision nationale par le porte-parole du chef de l'État. La présidence de la République affirme qu'il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État, une matière qui, ajoute la même source, relève de la compétence exclusive de l'Agence nationale de renseignement ANR. S'il n'est pas dans les habitudes de l'ANR de communiquer, comme l'a dit le porte-parole du président Félix Tshisekedi, la présidence a décidé d'en dire un mot. Suivez à ces sujets un extrait de la déclaration lue par Tarsis Kassongo Mouema Yambayamba.
Dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle.
En bref, le député national Josué Chemoufoula, jugé en procédure de flagrance à l'auditorat militaire du Nord Kivu hier mardi, il a été empêché par les services de sécurité de monter à bord de l'avion pour regagner Kinshasa. Selon sa défense, il est poursuivi pour provocation et incitation à des manquements envers l'autorité publique et outrage à l'armée. L'affaire a été prise en délibéré par rapport à l'exception d'incompétence personnelle soulevée par les avocats du député. Le gouverneur de la province du Sud Kivu et tout son gouvernement sont réhabilités dans leurs fonctions. Décision rendue hier mardi par la Cour constitutionnelle à Kinshasa. Cette réhabilitation fait suite à la requête introduite par Théo Ongwabi Kassi contre la motion de censure de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu du 2 décembre 2021. Jean-Claude Moubalama, directeur de cabinet du gouverneur de province, confirme cette information à Radio Capi. Il est joint par Emmanuel Elamijoua Kabedi.
Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt dans l'affaire RCONS 13-17-03 qui a, à cette occasion, déclaré la requête en inconstitutionnalité et qui a été déposée devant elle, recevable et fondée. Et par conséquent, la Cour a déclaré nul et de nul effet la motion de censure qui a été votée par l'Assemblée provinciale Sud Kivu en date du 2 décembre 2021 pour violation des articles 12 et 13 de la Constitution consacrant l'égalité de tous devant la loi, le droit à une égale protection des lois et à l'égal accès aux fonctions publiques. Et donc, c'est une décision qui n'est pas susceptible de recours et qui s'oppose à tous. Et moi-même, j'étais là, à la Cour constitutionnelle, pour vous dire que je confirme que cette décision a été prise aujourd'hui.
Un nouvel outil de lutte contre les antivaleurs dans la mobilisation de recettes publiques a été lancé hier mardi par le ministre des Finances Nicolas Casady. Il s'agit de l'application FinAlert dont l'objectif est de promouvoir la bonne gouvernance des finances publiques. FinAlert est téléchargeable sur laptop ou smartphone. Daniel Tambinzoni pour plus de détails.
À elle s'ajoute un numéro vert, le 165, pour dénoncer toute injustice dont on a été victime ou témoin. Le souci du ministre des Finances est d'arriver à une mobilisation optimale des recettes publiques, Nicolas Casady.
Nous avons créé FinAlert pour traduire dans les faits notre ferme volonté de créer un état de droit en matière fiscale. Et cela en vue de combattre le coulage des recettes, la corruption, le clientélisme, le détournement des deniers et toutes sortes de tracasseries financières dans notre pays. Je sais qu'il n'est pas facile, dans un tel contexte, de comprendre l'importance de notre démarche.
Une commission est mise sur pied. Elle va loger au cabinet du ministre des Finances afin de faire le suivi et évaluation rationnelle des plaintes des assujettis. Donc, avec FinAlert, dit le ministre, toute personne physique ou morale peut directement entrer en contact avec le ministère des Finances pour dénoncer la fraude fiscale, douanière, la concussion, les tracasseries financières ou administratives en vue de contribuer à l'harmonisation du climat des affaires dans le pays.
Au Nord Kivu, le gouverneur de la province décide de mettre fin aux avantages de nombreux membres du gouvernement, Karline Zanzu Kasivita, actuellement en congé. La mesure est annoncée dans une note qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours et dont le contenu a été confirmé à Radio Kapi par le porte-parole du gouverneur. Si le gouverneur civil, Karline Kasivita, garde quelques avantages, ce n'est pas le cas pour plusieurs de ses collaborateurs. Bernard Danyan qui nous en parle.
Une des clauses de cette note de service, signée en date du 25 janvier par le lieutenant-général Constant Dima, gouverneur militaire du Nord Kivu, stipule que les cadres politiques non actifs cessent d'être éligibles à la paie mensuelle jusqu'à la reprise de leurs fonctions. Une note qui est déjà diversement interprétée par plusieurs sources. Selon les précisions reçues du porte-parole du gouverneur, la même est plutôt corrective. Selon le général de brigade Sylvain Kingé, le gouvernement de l'état de siège travaille jusqu'à présent dans l'illégalité par rapport à la paie des membres du gouvernement civil en congé technique. Ainsi, selon lui, l'audit venu du gouvernement central a recadré les choses, ce qui a poussé le gouverneur à arrêter ces nouvelles mesures. Selon ces précisions, en effet, seul le gouverneur Karline Kasivita, son vice, ainsi que ses 10 ministres restent éligibles à la paie mensuelle, mais pas les autres membres de leur cabinet ou encore les autres collaborateurs. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Opération Kinbopeto. Le gouvernement provincial de Kinshasa signe un contrat de partenariat avec l'entreprise turque groupe Albaraik pour l'assainissement, dans un premier temps, de 7 communes du district de la Funa. Il s'agit des communes de Kalamu, Makala, Bumbu, Selemba, Ongiringiri, Bandalungwa et Kasavubu. Les travaux, qui seront précédés par un repérage des lieux, débutent dans un mois. Laetitia Benakabamba, commissaire générale de l'environnement de la ville provinciale de Kinshasa, explique ses choix et ce qui sera fait dans cet extrait choisi par Babel Pongo Massimango.
C'est un partenaire de taille et un grand allié, étant donné que c'est ce groupe qui s'occupe de l'assainissement de la ville d'Istanbul. Nous avons choisi Funa comme district pilote. Ça va nous prendre certainement 3 petits mois pour pouvoir nous étendre sur d'autres districts. Le contrat a déjà été signé et donc ici il est question de dimensionner simplement les engins qui doivent arriver, étant donné qu'ils en sont eux-mêmes constructeurs, afin que ces derniers soient en mesure de rentrer dans toutes les rues de Funa pour nettoyer. Il va installer dans la ville de Kinshasa une unité d'assemblage des camions et engins, tracteurs, etc. à Kinshasa. Et l'assainissement n'est qu'une partie de ce qui va être fait avec le groupe. Et donc nous avons plusieurs projets à réaliser dans un très court terme. Je me permets de rappeler aux Kinoises et Kinoises que Kinshasa Bopeto est un état d'esprit qui veut que nous puissions changer de mentalité dans tous les domaines.
Rendons-nous en Ituri où environ 160 enfants âgés de 0 à 14 ans sont menacés de malnutrition dans les orphelinats Saint-Kizito et Saint-Nicolas de Fataki à Bounia. L'alerte est lancée par le service de la protection civile au terme d'une mission d'évaluation menée dans ces orphelinats sur les conditions de vie de ces personnes vulnérables dont la plupart ont fui l'insécurité de groupes armés et dans les territoires de Djougou. Le responsable provincial de cette structure enseigne que des besoins sont énormes en termes de sécurité alimentaire, de logement ainsi que d'assistance médicale. Robert Djalunga lance un appel aux autorités pour venir en aide à ces personnes. Robert Djalunga est au micro d'Ezekiel Mouzelia.
L'évaluation que nous avons menée a touché presque plusieurs secteurs, entre autres les secteurs de la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, le logement et articles ménagers essentiels, eau, hygiène et assainissement. Les priorités d'abord qui ont été soulevées, c'est dans les secteurs qui concernent la sécurité alimentaire. Vu l'âge de ces enfants, ils sont censés d'être d'abord nourris, donc de bénéficier de la nutrition qui est convenue à leur niveau. On doit avoir des besoins qui nécessitent d'être prévenus, d'être réduits et gérés.
Toujours en Ituri, plus de 1000 élèves de 4 écoles primaires dans le groupement Malabo, territoire de Djougou, ne savent plus aller à l'école il y a cela une semaine. À la base, des exactions meurtrières de la milice Codeco ont contraint des parents et leurs enfants à quitter leur milieu pour trouver refuge dans des entités considérées comme sécurisées. Selon la société civile locale, à cause de l'absence de l'armée dans cette zone, ces enfants ne peuvent pas prendre le risque de retourner à l'école. Cette version n'est pas partagée par l'administration du territoire de Djougou. Au Sud-Kivu, le président de la nouvelle société civile congolaise Sud-Kivu rejette tout soupçon sur les contenus des conteneurs de la MONUSCO qui sont entreposés en ce moment en transit au port public de Kalundu à destination de Rutemba, un nouveau site de la MONUSCO. André Biadounia a fait partie de l'équipe de membres du conseil urbain de sécurité qui s'est rendu le week-end dernier au port de Kalundu pour procéder à la vérification physique du contenu des 10 conteneurs ensemble avec le maire d'Uvira et les services de sécurité. Le président de cette structure citoyenne coupe ainsi court aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, selon lesquelles la MONUSCO transporterait des armes et des munitions pour ravitailler de groupes armés. André Biadounia appelle la population locale à ne pas prêter attention à ces allégations non fondées. Il est joint par Fiston Goma.
Lorsqu'on a ouvert des conteneurs, on y a trouvé les matériels de construction, des maisons préfabriquées. Certains matériels étaient de seconde main et on a trouvé aussi des fils électriques et autres. Le travail va continuer aujourd'hui. Nous n'avons pas encore trouvé quoi que ce soit de mauvais. En tout cas, ce n'est que des matériels. Nous allons donner la conclusion le jour du dernier conteneur parce qu'il y en a d'autres qui viendront. Et le processus va continuer jusqu'à ce que nous aboutissions à la solution par rapport aux suspicions sur l'implication de la MONUSCO dans l'insécurité. Mais je pense que cette activité devrait être capitalisée par la MONUSCO dans le sens de tirer au clair que c'est pas tout ce qui est dans les conteneurs, c'est pas tout ce qui est fait par la MONUSCO qui peut aller dans le sens de sécuriser la population. Les réseaux sociaux, il faut bien les utiliser parce que par moment, il y a les gens de mauvaises intentions, de mauvaises foi qui donnent des fausses informations dans les réseaux sociaux. Et lorsque vous tombez sur ces informations-là, il faut les vérifier à la source. Il faut que la population s'apaise et nous sommes là pour elle. Et la MONUSCO et la société civile et la presse et les autorités, nous sommes là pour le bien-être de la communauté. Lorsqu'il y a des soupçons, il faut éviter de les propager sans avoir vérifié à la source. Mais aussi à la MONUSCO, il faut par moment partager les informations par la société civile pour qu'elles soient relayées au niveau de la communauté.
Pour rappel, dans le cadre du retrait progressif et responsable de la MONUSCO dans la province de Tanganyika, la mission onusienne procède depuis le mois de janvier dernier au transfert de quelques moyens logistiques de Kalemie vers son nouveau site de Rutemba dans la périphérie nord de la ville d'Uvira. La centaine de conteneurs contient des matériaux de construction et leur transfert du port public de Kalundu vers le nouveau site de la MONUSCO à Rutemba se poursuit sous l'accompagnement de la PNC et de services de sécurité.
Actualité internationale.
Au Mali, une trentaine de djihadistes abattus par les soldats du pays et la force européenne Takuba. Ces djihadistes ont été tués début février dans le Liktako malien par les forces spéciales européennes du groupement Takuba et les forces armées maliennes qu'elles accompagnent au combat. L'information émane de l'état-major français. Elle survient en pleine période de tensions diplomatiques entre Bamako et Paris. C'est la première fois qu'une unité malienne engagée auprès de Takuba obtient un tel bilan opérationnel, écrit l'armée française, précisant que cette opération menée du 1er au 6 février dans la zone dite des trois frontières aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger a permis de saisir de nombreux équipements et composants pour la fabrication d'engins explosifs improvisés.
L'invité.
Notre invité, c'est l'administrateur du territoire de Moba dans la province du Tanganyika. Il y a quelques jours, Didier Mumbere a procédé à l'incinération d'une vingtaine de filets à mailles prohibés. Par ce geste, il entend mettre en application la mesure prise par les autorités provinciales qui consiste à protéger l'écosystème et la biodiversité du lac Tanganyika, aujourd'hui menacé par l'usage de ces filets. L'administrateur du territoire Didier Mumbere est ici dans un entretien réalisé par François-Xavier Mibé.
Monsieur l'administrateur, Didier Mumbere, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'incinérer une vingtaine de filets maillants et ce n'est pas la première fois que vous vous livrez à une telle expérience au niveau des Moba. Mais quel est l'essence que vous accordez à ces gestes?
Vous savez, nous, à Moba, dès qu'on les attrape, on les brûle facilement. Au moins 25 filets mayas, dont les utilisateurs étaient les gens qui venaient du côté de la Zambie et Tanzanie.
Comment ont-ils réussi à glisser entre les doigts des services de sécurité avec une cargaison d'une vingtaine de filets mayans sur le lac Tanganyika, monsieur l'ambassadeur?
Nos services techniques ont essayé de suivre leur infiltration du côté du lac Tanganyika, du côté de la RDC. On les a attrapés et c'est pourquoi d'autres histoires, on les a restituées, les histoires qui leur appartenaient. Mais ce qui concernait les filets, on a brûlé. Puis que ce sont les gens-là qui venaient de la Tanzanie et Zambie qui venaient avec ces filets-là.
Mais qu'est-ce que vous craignez sur l'usage de ces filets sur le lac Tanganyika?
Bon, vous savez, dans le Tanganyika, nous avons l'arrêté du gouverneur qui interdit l'utilisation des filets mayas prohibés sur toute l'étendue de la province. Mm-hmm. Et le territoire le plus actif pour demander ces filets, c'est le territoire de Moba. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas à dire que c'est la première fois. Chez nous, même vous, journalistes, Javier Nibé, si vous arrivez à Moba, vous n'allez pas avoir des poissons qu'on a pêchés avec ces filets mayas prohibés. Mmh. Donc le territoire est en train d'utiliser des filets conformes à la pêche.
Qu'est-ce que le danger qui représente ce type de filets?
Mais selon le laboratoire de techniciens, même le médecin, ces filets contiennent des poisons. Et les poisons-là, ça tue les poissons pêle-mêle, ça affecte directement le corps de la personne. Mmh. Vous-même, si vous bouffez ces poissons, dans 2 mois, si on vous fait un test du corps, même de votre sang, vous allez vous trouver que vous avez du poison et vous allez commencer à demander qui m'avait empoisonné, c'est à cause de manger ces poissons-là.
Et maintenant, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour éviter que ces genres de filets ne puissent filtrer jusqu'à atteindre Moba et que les poissons ne puissent être consommés dans la province? Qu'est-ce qui est fait sur place?
Ce que nous devons faire pour éviter ces filets, c'est de demander la source de la provenance de ces filets. Ça, c'est de 1. De 2, le service technique au niveau de la province, nous devons tous nous mettre en vigilance pour ne pas autoriser ces filets, que ces filets puissent se filtrer quelque part. Par exemple, le filet peut passer soit à Kalemi pour être à Moba, mais à Moba, nous allons les attraper toujours. Donc, nous devons savoir d'abord d'où proviennent ces filets, la source de ces filets, pour les traquer facilement. Deuxièmement, les services qui traquent ces filets doivent être à tout moment vigilants aux aguets pour que ces filets ne puissent pas pénétrer la province du Tanganyika en général. Ce n'est pas seulement Moba, pour que ces filets puissent être totalement éradiqués dans l'ensemble de la province du Tanganyika.
Ah oui, tout à fait. Mais monsieur l'ambassadeur, peut-être notre dernière question. Quelle doit être la contribution de la population de Moba, d'une manière particulière, la population de toute la province du Tanganyika, face à ces filets?
D'abord, moi, je félicite la population mobatracienne à tout moment. Car la population mobatracienne voit ces filets directement, la population alerte les services techniques, même le membre du conseil de sécurité, on nous alerte et nous sommes au courant comme quoi, telle part, apparemment il y a les gens qui utilisent ces filets. Et si ça serait dans l'ensemble de la province du Tanganyika, toute la population puisse alerter le service technique dans l'ensemble de la province du Tanganyika, je sais que même partout là où on utilise ces filets clandestinement, ça doit être toujours éradiqué.
Monsieur l'ambassadeur, Didier Mumbere, merci.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.